La version 1, les 28 points, qu'on a tous cherché la semaine dernière parce qu'ils n'étaient pas publiés officiellement. Et c'est d'ailleurs les organes de presse qui finalement les ont produits, les 28 points. Effectivement, ça c'était l'acte 1. Ensuite, il y a eu un acte 2 pendant le week-end. C'est les Ukrainiens qui étaient acceptés, admis à Genève par la délégation américaine pour prendre en compte un certain nombre de desiderata ukrainiens. Et puis l'acte 3, c'est Volodymyr Zelensky qui a dit « Bon, à Genève, on a fait des progrès, mais il reste deux points majeurs que je veux régler avec le président américain. Et donc je vais aller voir le président américain, je vais aller voir M. Trump tout de suite pour régler ces deux points. » La porte-parole de la Maison-Blanche a dit « Ce sont des détails. » Pas du tout des détails. D'abord, le diable est toujours dans les détails, mais ce ne sont pas des détails puisque ce sont les clauses territoriales et les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc c'est absolument majeur. Et évidemment, M. Trump a disparu à Mar-a-Lago parce qu'il y avait des dindes qui l'attendaient pour la fête, en effet.
Joséphine Storm.
Vladimir Poutine, il était assez muet ces derniers jours, alors que l'Europe entière et les États-Unis s'émouvaient de ce plan à 28 à 19 points. Donc tout le monde accélérait, et finalement Vladimir Poutine restait en retrait. Là, il a pris la parole pour ne pas dire grand-chose, c'est-à-dire dire, comme d'habitude, bien évidemment que je suis ouvert aux négociations, et si on pouvait régler ce problème sans utiliser la force, ce serait formidable. Sous-entendu, si je pouvais récupérer l'Ukraine, ou en tout cas une bonne partie, sans avoir à perdre de soldats ou à investir trop d'argent, ce serait encore plus appréciable. En termes d'accélération, on n'y est pas. Moi, j'ai le sentiment que ce plan en 28 points, c'est pas tant sa rédaction qui a été précipitée que sa mise en ligne, sa diffusion, presque la fuite de ces points qui a ensuite contraint les Européens, qui ont l'air d'avoir découvert la teneur de ce premier plan, qui les ont obligés à produire des contre-propositions. Mais aujourd'hui, on ne sait absolument pas quel est le document auquel on devrait faire référence pour savoir sur quoi
Depuis plusieurs mois, c'est effectivement d'obtenir sans combattre, parce qu'il faut bien voir que les forces armées russes ont une difficulté. Alors, elles essaient de prouver le contraire, elles se concentrent sur certains points pour essayer d'impressionner M. Trump, qui veut absolument arrêter cette guerre et montrer que les troupes russes avancent. C'est tout le sens de cette offensive sur Pokrovsk, mais qui depuis plus d'un an dure aujourd'hui. Et en réalité, les avancées sont très très faibles. Il faudrait des années et des années. Et là, ce qu'il essaie d'obtenir, c'est après avoir impressionné M. Trump, s'il le pouvait, en disant, vous voyez, inutile de résister, l'armée russe avance de manière irrémédiable, eh bien, donnez-moi le reste du Donbass. En fait, ça m'éviterait de combattre. Donc c'est ça qu'il répète dans cette déclaration de Bishkek.
Alors, 28 points qui a été révélé par le Financial Times la semaine dernière, il prévoyait dans les grandes lignes que Kiev cède à Moscou les oblasts de Donetsk et de Luhansk dans le Donbass, que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN, que son armée soit réduite à 600 000 soldats au lieu des 800 000 actuels et que la Russie puisse réintégrer le G8. Tollé international immédiat, les délégations ukrainiennes et américaines avec le secrétaire d'État Marco Rubio ont donc retravaillé cette proposition, vous l'avez dit, à Genève le week-end dernier et ont réussi à s'entendre enfin sur un plan, cette fois en 19 points. Et dans cette mouture, voici les principaux éléments supprimés ou mis en pause. Il y a la question territoriale dans le Donbass qui est donc mise entre parenthèses en attendant d'éventuelles négociations entre Trump et Zelensky à Washington. Entre parenthèses aussi tous les points qui touchent directement à l'OTAN. Quant à celui sur la taille de l'armée ukrainienne, supprimé, et celui sur la réintégration de la Russie dans le G8, supprimé. Claude Blanche-Maison, on le voit, les États-Unis, ils ont changé de cap en quelques jours. Est-ce que pour vous...
Avec Poutine, sur le point, les Européens n'ont rien à faire à la table de négociation. Donc la réunion de Genève visait à prendre à bord un certain nombre des revendications ukrainiennes. En dehors des Européens, il y avait trois Sherpas français, anglais et allemands en ville, mais ils étaient dans un hôtel séparé à côté.
C'était juste pour le décor, ça.
Ben, pas pour le décor, c'est qu'ils se sont imposés. On leur a dit, bon, ben, votre hôtel, c'est là-bas. Vous n'avez rien à faire sur le lieu de la négociation. Donc, ils n'ont servi à rien. Comme de bons diplomates, comme nous sommes tous, évidemment, ils ont pris un crayon et ils ont mis entre crochets ce qui n'allait pas dans le plan en 28 points. Mais ils n'ont pas participé à la négociation du nouveau plan en 19 points. D'ailleurs, le plan 28 points comme le plan en 19 points postule pour autrui, c'est-à-dire pour l'Union européenne, en prévoyant par exemple que l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne et qu'en attendant d'entrer dans l'Union européenne doit lui faire des concessions douanières. C'est quand même énorme que les Russes et les Américains statuent là-dessus. C'est vraiment un sujet. Bon, par ailleurs, la nouvelle architecture de sécurité de l'Europe est en effet esquissée dans divers points. Les Européens n'y sont pas. Donc il ne peut pas y avoir d'accord sans les Européens. Et à la limite, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'un des grands responsables européens, un des grands responsables politiques européens, dise aujourd'hui, comme nous le lisons de temps en temps sur les tableaux, c'est très simple, nous ne signerons pas. Puisque nous ne participerons pas à la négociation, nous ne signerons pas. Et nous maintiendrons nos sanctions contre la Russie. Donc continuer à négocier tous les deux, ça n'aura pas l'effet recherché.
Semblait tout aussi surpris que les Européens lorsque ce plan 28 points a fuité. Donc ça répond à votre question. Ce que ça a montré quand même, c'est des couacs au sein même de l'administration américaine. Et on le voit depuis un certain temps, il y a des clans qui se forment.
Des clans... Il y a des pro-russes et des pro-ukrainiens.
Alors, j'irais même pas sur le pro-russe ou pro-ukrainien. Il y a des pro-business qui voient un rétablissement de la Russie dans l'ordre international, dans l'ordre économique, comme étant formidable pour les affaires et le commerce. C'est pas faux si on se place de leur point de vue. Et puis d'autres qui sont plus des diplomates de carrière et qui voient les conséquences énormes sur le droit international et sur la suite potentielle à 5, 10, 20 ans du conflit en Europe et qui donc forcément sont beaucoup plus prudents dans leur approche. Donc on a cette tension au sein de l'administration américaine qui a été révélée au grand jour par ce plan en 28 points et la fuite qui en a suivi.
Trump, dont il est un ami proche, à qui il doit beaucoup, effectivement, et en l'occurrence, il veut servir son ami et son chef, en fait, et donc il veut une paix à tout prix. Et une paix à tout prix, la plus facile aujourd'hui, c'est de demander la capitulation de l'Ukraine, en partie basée sur des mauvaises informations, ce qui se laisse impressionner, comme je le disais, par l'avancée de l'armée russe, qui n'est pas si effective que cela en réalité. Et on voit dans sa compréhension du conflit, souvenez-vous, il s'était trompé sur le nom des régions occupées par la Russie, c'est-à-dire il le connaît très très mal.
Mais sur Witkoff, Gilles Jean, excusez-moi de vous interrompre, mais la partialité supposée de Witkoff a été quand même accentuée, aggravée, ce soupçon, par la révélation de cette conversation mi-octobre.
Absolument.
Avec un conseiller très proche de Vladimir Poutine.
Absolument, ça
conversation entre amis, en quelque sorte.
Ça, absolument, ça reflète aussi les positions de M. Trump, qui est quand même très proche de la Russie dans sa manière de concevoir le monde, et parce qu'il y a une longue histoire de ses relations avec Moscou, etc. Donc je pense que Witkoff, il veut ça. Et Witkoff, il existe aussi parce que c'est un personnage qui n'est pas du tout issu de l'appareil bureaucratique américain, que ce soit les services de renseignement, la diplomatie. Il est complètement hors-jeu. Et c'est là qu'il a essayé de marginaliser M. Trump. Souvenez-vous, son plan de 2025, lorsqu'il a fait campagne, etc. Il veut en fait... Il veut changer l'Amérique. Donc il doit changer, il doit aussi écarter toute l'administration. Il a voulu démanteler la CIA. Et probablement que les écoutes qui font scandale aujourd'hui sortent de la CIA ou d'une autre agence de renseignement. Il les a marginalisés. Il est très, très, très mal. Il a la réponse. Et M. Rubio, contrairement à M. Witkoff, est plutôt quelqu'un qui incarne justement cette Amérique traditionnelle, qui porte les intérêts américains tels qu'ils ont été définis, à tort ou à raison, peu importe, mais depuis des décennies.
Avant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, M. Lavrov, M. Poutine, l'ambassadeur de Russie à Paris, disait « Jamais nous n'envahirons l'Ukraine ». Vous voyez ce que vaut leur parole.
Oui, mais là, il est prêt à le mettre par écrit.
Ça ne me rassurerait pas.
Encore moins. Je crois effectivement que l'histoire a montré que la parole et même les traités ne suffisaient pas à empêcher des guerres. Alors, est-ce que Vladimir Poutine a une intention ferme et définitive d'attaquer un pays balte, la Pologne ? On n'en sait rien. En revanche, si on prend pour argent comptant la parole de Vladimir Poutine et on se dit, comme on s'est dit à d'autres époques dans l'histoire, ça nous rassure suffisamment et surtout n'investissons pas davantage pour nous protéger ou ne soutenons pas davantage l'Ukraine et en faisant un garant de notre propre sécurité européenne, eh bien nous prenons un risque considérable.
Mais Régis Jean...
J'ai vraiment envie d'arrêter ce conflit. Au contraire, je pense qu'il ne veut pas l'arrêter. Et moi, les sources qui me viennent de Moscou, des vieilles sources que je travaille depuis très longtemps, montrent qu'il est entouré... Alors, tous les gens qui travaillent avec de l'argent, j'ai envie de dire, ceux qui dirigent des grandes sociétés, etc., sont fortement impactés par les sanctions, notamment, ce qui les affaiblit parfois dans le panier de crabe des cercles dirigeants russes, parce que si votre entreprise devient moins forte, vous êtes moins fort vis-à-vis des autres. Donc ça les inquiète beaucoup. En revanche, ce qu'on appelle les siloviki, les gens des services de sécurité, de la police, de l'armée, qui sont les plus proches de M. Poutine, lui-même sortant de ces cercles-là, le poussent à continuer la guerre en disant « on est sur la bonne voie, encore quelques mois, et nous remporterons ». Et c'est eux qui l'écoutent en ce moment. montre aussi les négociations, c'est-à-dire que dès qu'il peut, il introduit des conditions qui sont inacceptables. Il ne peut pas dire non à M. Trump, parce que Trump est le représentant de la plus grande puissance américaine, on connaît son volontarisme, donc faut bien, quand on lit ce qu'il dit, il faut toujours voir qu'il a toujours besoin de plaire à M. Trump en disant vous êtes un faiseur de paix, bien sûr, nous voulons la paix, et ensuite, il trouve des conditions qui sont inacceptables. Les autres jouent à cela aussi.
Pourtant, le président Hollande, qui ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur les intentions de la Russie, c'est lui qui a quand même annulé la vente des porte-hélicoptères.
Il vient de l'entendre dire que cette date sera une date importante, Didier. Hein,
bien sûr.
Alors, c'est pas le cas. Ça
oui, mais parce que lui et Mme Merkel ont été jusqu'où on pouvait aller pour tenter d'arriver à un compromis avec Poutine. Et d'ailleurs, ce compromis visait le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est-à-dire que la mauvaise foi de Poutine allait jusque-là, dans les accords de Minsk, on dit qu'on reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est pas grave.
C'est un principe. Ils n'ont pas été respectés.
Et puis voilà. Et effectivement, en plus, alors il y avait un avantage à l'époque, ça c'est anecdotique, c'est que Mme Merkel pouvait rudoyer Poutine en allemand et en russe, directement, dans les deux langues. Et elle ne ménageait pas ses mots, c'est-à-dire qu'elle lui disait « arrête de nous dire des salades, ça suffit comme ça », en allemand et en russe. Et Poutine oui. comprenait l'allemand puisqu'il avait été en poste FSB à Dresden, enfin KGB.
Le renseignement ça n'avance pas depuis 4 ans. C'est-à-dire que lorsque Poutine envahit l'Ukraine en 2022, on est persuadé que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, que l'Ukraine va s'effondrer très vite.
Lui, on est persuadé.
Lui, et puis même nous, hein, on propose l'asile à Volodymyr Zelensky. Enfin voilà, personne ne donne cher de la peau de l'Ukraine. Et puis finalement, on voit assez rapidement que l'équilibre va finir par se maintenir. Et cet équilibre, il tient depuis 4 ans. Je voudrais juste revenir sur la séquence avant. Ça nous montre quoi en 2014 ? Ça nous montre que les Européens n'ont pas voulu croire qu'on allait changer d'air, et ils ont préféré imaginer que l'annexion de la Crimée serait un épiphénomène et que Vladimir Poutine n'aurait pas intérêt à aller plus loin. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas intérêt à rompre nos relations avec la Russie, et surtout pas l'Allemagne, qui venait de se couper de l'énergie nucléaire 3 ans plus tôt en 2011 et qui dépendait encore plus des importations de gaz russe. Donc d'un point de vue de politique intérieure, pour la chancelière Merkel, la relation allemande et russe était nécessaire, elle était indispensable, voire existentielle à ce moment-là.
Régis Zanté.
Je crois que, comme souvent, les guerres, hélas, elles se décident d'abord sur le terrain et pas par la diplomatie. La diplomatie intervient quand le terrain devient décisif. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. On n'en est pas là.
Mais on est presque dans une guerre de tranchées aujourd'hui.
Oui, absolument. C'est même différent, à vrai dire, parce que ce qu'on appelle les kill zones, les zones de meurtre, sont en fait des zones qui sont très très larges, qui peuvent faire 10, 20 km de long, complètement saturées de drones, et qui sont des lieux où un être vivant ne peut pas survivre plus de 5 minutes en réalité.
Justement, le front
pris au sérieux par la société, il va le payer un jour, le jour où
l'Ukraine
il y aura la paix.
Tenir longtemps, en tout cas, d'après vous.
Longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas, elle peut tenir encore. Et on voit dans les sondages d'opinion, par exemple, que les Ukrainiens voudraient évidemment l'arrêt de la guerre. C'est beaucoup plus lourd pour eux encore que pour la Russie, bien sûr. Même si côté russe, il faut voir qu'on a probablement plus de 220 000 morts. Ce sont les estimations les plus prudentes. En Ukraine, on a moins de morts, mais proportionnellement, ça fait davantage. Parce que l'Ukraine est sur la défensive, donc c'est généralement moins coûteux en termes de vie. Mais les Ukrainiens ne sont pas prêts à tout lâcher. Ils veulent bien... on peut dire que Zelensky a un mandat pour éventuellement négocier, mais pas au prix de la souveraineté du pays.